Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Jusque-là, connu surtout des cinéphiles, c'est avec L'Empire des Sens, en 1976, que Nagisa Oshima se rendit célèbre auprès du grand public international. Présenté à Cannes dans la quinzaine des réalisateurs, le film produit par Anatole Doman rencontra un grand succès commercial à la hauteur du scandale qu'il provoqua au Japon. Après lui, L'Empire de la Passion, Furio avec David Bowie et Max Mon Amour ne feront que conforter dans le monde le statut de réalisateur japonais vedette d'Oshima. Pourtant, l'essentiel de sa production cinématographique, qui commence 25 ans avant L'Empire des Sens, reste encore aujourd'hui largement méconnu du plus grand nombre. En 1998, pour le Ciné-Club de France Culture, Pascal Lismonde proposait de mieux connaître la personnalité et l'œuvre de Nagisa Oshima. Frappé de paralysie, celui qui fut la figure de proue de la nouvelle vague du cinéma japonais devait mettre un terme à sa carrière un an plus tard avec Tabou, son dernier long métrage, avant de disparaître au début de l'année 2013. Ciné-Club, Nagisa Oshima avec Jean-Claude Carrière, Christine Bussy-Glucksmann, Vincent Ostria, Max Tessier, Yoshi Umemoto et Jean Narboni.
Nagisa Oshima.
Son originalité, c'est d'avoir été constant dans sa volonté de provocation ou de perturbation de la société japonaise et puis d'avoir constamment mêlé le crime, le sexe et la politique.
Lors d'un festival de Venise, un jeune Allemand malveillant vint m'interviewer. « Pourquoi faites-vous du cinéma ?» C'est une question des plus ordinaires. Le mieux est d'y répondre évasivement et, comme la malveillance de ce jeune homme n'était pas désagréable et promettait même une vive controverse intellectuelle, je répondis d'une façon arrogante « Pour savoir quel homme je suis. » « Ah bon ? Ce n'est que cela. » Mais alors, vous pourriez tout aussi bien tourner en 8 mm. Et de n'avoir su que lui répondre me piqua au vif.
Jean Narboni, peut-être serait-il intéressant pour commencer cette interview, puisque vous avez rencontré Oshima à plusieurs reprises, ce serait de nous évoquer le personnage tel qu'il a pu vous apparaître. L'avez-vous rencontré déjà au Japon ou en France, à l'occasion de rétrospectives à Cannes ou de présentations de ses films?
Je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était à Avignon. Les Cahiers avaient parlé d'un film qui... Ils avaient beaucoup marqué, qui s'appelle La Pendaison, qui avait été, je crois, une sorte d'événement tout de même. Et il y a eu, je crois, ça devait être en 1969, ou peut-être en 1970, une sorte de rétrospective d'un certain nombre de cinéastes japonais considérés comme ce qu'on appelait la nouvelle vague du cinéma japonais, c'est-à-dire Shinoda, Yoshida et Oshima. Et un certain nombre de ces films ont été montrés à Avignon. Donc je l'avais rencontré à cette occasion. Alors, il s'est passé quelque chose d'assez drôle parce qu'il avait un certain nombre de collaborateurs, dont un certain Watanabe qui est un acteur fétiche, enfin qui est en plus un collaborateur au point de vue du scénario, de l'écriture, mais surtout un acteur qu'il a repris maintes et maintes fois. Bon, tout ce groupe était là, on est dans Avignon, et donc il avait été question que je fasse un entretien avec Oshima. Donc, il m'avait donné rendez-vous pour le soir, je ne sais plus si c'était dans un hôtel ou si c'était dans un appartement. Alors là, je n'ai jamais su si ça avait été délibéré comme détournement d'intention ou si ça a été de fil en aiguille, mais on s'était retrouvés comme ça une douzaine. Watanabe, Oshima, un certain nombre d'autres. Puis on a commencé à boire, et puis bon, le moment de commencer l'entretien était différé. Et puis finalement, les choses aidant, ça s'est presque transformé en fête, avec des chants, des danses. Et dans mon souvenir, sauf si j'ai un faux souvenir, mais je crois pas, il n'y a jamais eu d'entretien.
これどうするの？
なんだおめえそんなこと知らないのか？
だって私まだお嫁にしたことないもん。
おめえ花嫁が前に嫁にしたことがあっちゃうなあ、面白くねえ。いや、というわけでな、今日は俺たちの結婚式なんだよ。だからみんな派手になパーッとやってくれ。パーッとな。
よっ、はい、
はい、いっぱい。
Jean-Claude Carrière.
Vous savez que c'est un homme très connu pour sa vie publique à la télévision japonaise, où il a des émissions, et son élégance. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel, j'ai découvert dans un magazine d'hôtel, vous savez, une photo d'Oshima présentant un costume de mode. Il est le mannequin.
C'est un dandy, en quelque sorte.
C'est un dandy, mais il défile carrément dans des... Ou il défilait, en tout cas, dans des défilés de mode. Alors, il arrivait chez moi chaque jour avec un costume différent. Et c'était vraiment l'apparition d'Oshima sur le pas de la porte. C'était quelque chose comme un jeu, finalement, que j'attendais. Et qui, chaque jour, il devait me surprendre. Alors, c'était des costumes très, très modernes. Des costumes de Yamamoto, enfin de... Et puis, de temps en temps, il arrivait alors habillé à totalement à l'antique, sans le moindre détail, avec une petite bourse, avec toutes les chaussettes, les socs. Il avait des costumes extravagants. Un jour, il était arrivé drapé dans des versets du Bouddha, tout ça, sur des tissus imprimés, oui, des sutras. Enfin, c'était une partie du jeu que nous jouions ensemble, et puis à part ça, comme on fait toujours, on mangeait ensemble chaque jour, on est allé au spectacle, on est allé au kabuki, on a vécu ensemble. Parce que pour travailler ensemble, il faut vivre ensemble, il faut partager à un moment donné un moment de vie.
Jean-Claude Carrière rencontré Oshima pour le scénario de Max Monamour. Max Monamour, un film de 1986 où les amours d'une femme avec un chimpanzé. Un film très drôle sur un sujet sulfureux. 10 ans avant déjà, l'Empire des Sens avait fait scandale et consacré la notoriété internationale de Nagisa Oshima. C'était l'amour à mort. Oshima montrait toutes les transgressions du désir, mais en Occident, on avait compris d'emblée que le cinéaste allait bien au-delà de la seule dimension pornographique qui lui valut un procès dans son pays. Déjà consacré par une vingtaine de films, Oshima était un des fers de lance des cinéastes de la nouvelle vague au Japon. L'un des plus violents aussi, car il montre sans cesse l'intrication entre politique et sexualité, l'oppression sociale d'un côté, le déferlement de la puissance sexuelle de l'autre. Tout un cortège de héros négatifs, rebelles ou criminels, deviennent des figures centrales de son œuvre. En même temps, ces portraits de femmes tout à fait poignants montrent d'un côté le poids des traditions de la société japonaise et de l'autre les forces de libération et les multiples tentations de l'absolu. Une œuvre non encore achevée, bouleversante, dont la violence est intacte.
どうした?体が悪いのかい?やるよ。血だこだ。え?どうした?ぼんやりして。
À l'origine, c'est la réaction des Japonais à la défaite de 46.
Vincent Ostrigan.
Ça a été un traumatisme, bon, qui est naturellement lié au la bombe atomique, qui a été un traumatisme physique et moral incontestable, mais aussi il y a eu une remise en question de toutes les valeurs japonaises à partir de là. Même la personne de l'empereur a été un peu remise en question à cette époque-là. Et les jeunes étudiants, donc qui ont eu 20 ans en fin années 40, comme Oshima, étaient des gens assez extrémistes. Et lui, il était étudiant, il était impliqué dans des mouvements politiques sans jamais avoir eu d'étiquette. C'est quelqu'un qui a refusé constamment de s'engager nettement dans un parti politique. Mais en ayant eu toujours une activité politique, même s'il s'en défend, il dit toujours qu'il ne fait pas des films politiques, que son but ce n'est pas la politique. Mais c'est quelque chose de plus profond, je pense, que la politique, c'est une volonté de liberté de l'individu, simplement. Il voulait se détacher de l'aspect collectif de la société japonaise, et qui pesait beaucoup sur la jeunesse à cette époque-là, puisque il y avait une croyance unanime de la société japonaise en des valeurs ancestrales, dans la personnalité divine de l'empereur. Et tout ça, ils ont été complètement étonnés, en fait. Ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Parce que pour eux, il y avait un credo vraiment fort. Et tout d'un coup, tout ça s'est écroulé avec la bombe de Hiroshima et de Nagasaki. À partir de là, tout a été bouleversé, quoi. Et d'ailleurs, j'ai une petite citation de Shima. Qui dit que, à partir donc de la défaite, de l'explosion de la bombe, il dit « Ce jour-là, j'ai compris qu'il n'y avait rien, absolument rien, dont on puisse affirmer avec certitude que cela n'arrivera pas. »
Ce jour-là était un jour chaud, un jour d'été où un silence étrange baignait et dominait le Japon. J'avais 13 ans. J'étais en deuxième année à l'école secondaire. Dans ma maison sombre des faubourgs de Kyoto, je jouais aux échecs. Durant cette partie d'échecs, le monde changea. L'événement eut lieu. On nous avait dit que pareil événement ne se produirait jamais, et nous avions fini par le croire.
Et il y a eu un film beaucoup plus récent de Chris Marker, par exemple, où Oshima apparaît très vite parmi les différents personnages qui sont interviewés. C'est donc dans Level 5.
Oui.
Et Oshima apparaît comme cinéaste, bien entendu, mais en même temps comme celui qui est toujours révolté par la défaite, en fait, la défaite du Japon, et puisque l'ensemble du film montre le désastre d'Okinawa, de la bombe qui est tombée là, et des ravages qu'elle y a commis. Et on sent, en fait, que c'est une sorte de point de départ, certainement dans sa propre violence de réaction et de créateur par la suite.
Ce qui se passe, c'est que c'est un très grand documentariste. Souvent, on l'oublie un peu. Il a fait un très grand nombre de documentaires. Je crois d'ailleurs que dans le festival Cinéma du Réel, qui va avoir lieu bientôt, un hommage sera rendu à ses films. Les mêmes questions qui viennent en France, à Paris. Et donc, il a fait beaucoup, beaucoup de documentaires, dont un certain nombre concernant les anciens combattants, et surtout le problème des Coréens qui le hante, le sort fait aux Coréens par les Japonais, hors du Japon et au Japon.
Comme on le voit dans La Pendaison, précisément.
Tout à fait, puisque le personnage est coréen et catholique. Donc, mais... Oui, ça, ce que vous disiez sur la défaite, c'est aussi le problème de Pasolini et de Fassbinder. C'est-à-dire ce sont trois cinéastes qui, comme par hasard, c'est-à-dire pas par hasard, appartiennent à trois pays qui ont été fascistes. Et qui n'ont eu ensuite de cesse de revenir sur cette période antérieure en disant, le régime qui a suivi a refoulé ce qui a été l'horreur de nos trois régimes. Ce qui en fait des cinéastes très importants, puisque ce sont des cinéastes qui se sont confrontés à leur pays. Enfin, ils ont déclaré la guerre à l'amnésie de leur pays. C'est pour ça que c'est extrêmement, extrêmement riche et si vaste, là. Chez Oshima, il y a aussi cette chose. C'est-à-dire, il y a eu une caste fasciste, militaire, un impérialisme avec des gens qui ont été opprimés, réprimés, occupés, et le Japon vient de là. Donc, c'est assez peu fréquent de voir des cinéastes qui, à un moment, entrent en guerre, ou du moins font une sorte de sondage de mémoire, de coupe, de radiographie de leur propre pays, en interrogeant sans arrêt, d'où, en posant la question d'où nous venons, quoi. Et surtout, qu'est-ce que nous avons enfoui.
Rétrospectivement, il me semble que ma jeunesse a commencé ce jour-là. Et si c'est vrai, il faut dire que ma jeunesse a débuté de façon bien étrange. Elle est née du jour où j'ai compris qu'il n'y avait rien, absolument rien dont on puisse affirmer avec certitude que cela n'arrivera pas. Il me semblait qu'au début de sa jeunesse, on devait être plus riche d'espoir. Après sa mort, mon père m'avait laissé de nombreux livres. J'avais 8 ans quand il est mort. Et à cette époque, j'avais déjà lu beaucoup de grandes œuvres littéraires. J'avais même parcouru quelques pages d'une très vieille édition du Capital. À croire ces savants ouvrages, la jeunesse commence fondée sur l'espoir et la pureté. La mienne débuta par l'échec. Pas l'ombre d'un espoir.
Thank you.
Il est devenu réalisateur un peu par hasard. Il a commencé à l'intérieur du système, c'est-à-dire dans le système des studios. Il est entré à la Shochiku, qui était une des grandes majors, à la manière des majors américaines. Il a été engagé là-dedans. Et il a plus ou moins...
Il dit que c'est un peu pour gagner sa vie aussi, simplement même.
Oui, oui, bah, bien sûr. Après, c'est devenu un métier. De toute façon, il avait été étudiant en droit uniquement pour faire quelque chose, comme beaucoup de jeunes. Il n'avait pas particulièrement envie de faire une carrière de juriste ou d'avocat. Donc, à l'intérieur du système, il est devenu, c'était très hiérarchisé, comme partout dans la société japonaise. Il était assistant un petit peu, scénariste, et puis il a gravi les échelons et on lui a confié un premier film. Et ces trois premiers films ont été d'abord influencés par le néoréalisme italien, et aussi, en amont, par un film de Kurosawa qui s'appelle « Je ne regrette pas ma jeunesse », qui est aussi une description un peu de la jeunesse désillusionnée, perdue, d'après la guerre. C'est un film qui a été tourné en 1946. Et donc, quand Oshima commence à tourner son premier film en 1959, il est dans le système des studios, et en fait, on lui demande de faire des films de jeunes un peu chahuteurs, quoi. Enfin bon, là, je schématise énormément, mais le problème, c'est que lui, il prend ça vraiment à cœur et il va jusqu'au bout de ce principe. Et au lieu de montrer des jeunes un peu chahuteurs qui rentrent dans le rang, il finit ses films constamment par un constat d'échec irréversible. Le premier film, ça s'appelle Une ville d'amour et d'espoir. D'ailleurs, je crois il n'est pas tellement connu en France. Je pense qu'il n'a jamais été montré. C'est déjà l'histoire d'une pauvre famille, donc le contexte un peu néo-réaliste. La mère est cireuse de chaussures. Le fils est marchand de pigeons, mais il est escroc parce qu'il vend des pigeons et les pigeons reviennent constamment chez lui.
Alors qu'ils devraient rester chez leur nouveau propriétaire.
Voilà, c'est ça. Et ça montre qu'il n'y a absolument aucun espoir et aucune possibilité d'intégration de la classe la plus pauvre à la société japonaise. Donc, il reste constamment en marge. Et en fait, que aussi déjà, ça apparaît dans ce premier film, le côté criminel, bon, enfin, disons, là, un peu atténué, mais après, ça prendra de la puissance. Donc, le fils est en marge de la légalité, mais jamais il n'est réhabilité. Il ne pourra jamais s'en sortir, et ce système va se perpétuer dans ses films suivants, dont le deuxième, Conte cruel de la jeunesse, qui est maintenant un de ses plus connus, qui montre un état de la jeunesse un peu déliquescent qui est un peu la colère de la jeunesse actuelle, quoi. Donc il sert un peu de porte-parole, tout en restant dans le système des studios japonais.
À plusieurs reprises dans d'autres entretiens qu'il a accordés ou dans ses écrits intimes aussi, dont vous avez rassemblé certains dans ce livre donc publié en 80 sur les écrits d'Oshima, on voit que le groupe pour le travail en particulier est très important, qu'il aime bien réunir les acteurs, préparer ses films avec eux beaucoup plus que n'importe quel autre cinéaste, semble-t-il.
Bien sûr, il y a une inclination personnelle, une disposition qui l'a en propre, mais aussi quelque chose qui est parfaitement lié à sa politique tout court et sa politique du cinéma. C'est-à-dire que bon, il a commencé à son premier film d'Ajura de 59. Ensuite, il y a eu toute la période des grands films politiques. Et là, la notion de groupe, la notion de travail en commun, la relativisation de la notion d'auteur, enfin, tout ça sont de subjectivité individuelle. Bon, toutes ces choses étaient complètement à l'ordre du jour, et donc ça recoupait parfaitement ce qui, en plus, faisait partie de ses goûts, c'est-à-dire le travail en équipe, la collaboration, le communautaire, le groupe politique, et le groupe esthétique, d'une certaine façon.
Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui semble accorder aussi une grande part à la possibilité d'improvisation dans ce livre dont vous avez dirigé la publication. Jean Arbonnier, il y a un texte assez drôle où il dit par exemple que suivre un scénario à la lettre, ça ne le plaît pas tellement, et que le soir le saké a un goût absolument détestable, alors que le même saké a un goût délicieux si dans la journée on a pu avoir justement cette part d'improvisation.
Bien sûr, il y a chez lui quelque chose qui relève aussi d'une politique à l'égard de, disons, des canons de la réalisation d'un film. Et pour lui, il appelle à un moment la négation incessante de soi, savoir, on invente quelque chose, mais si on gère ce qu'on invente, ça va devenir la gestion de l'invention, donc une nouvelle banalité. Et à un moment, il décrit une sorte de processus qui est sans arrêt l'action, la dissolution, puis la nouvelle action. D'ailleurs, le titre du livre, c'est Dissolution et jaillissement, c'est un texte qui a été trouvé par lui, ça dit assez bien
le
ce qu'il en est. Donc le
lui.
Processus de décomposition, de construction-destruction porte sur tous les plans de son cinéma, à commencer par celui du scénario, puisque c'est quelqu'un qui a eu horreur du programme, c'est-à-dire de quelque chose de programmé, hein, l'accomplissement d'un programme, c'est-à-dire un scénario, et puis ensuite la mise en image de ce scénario, c'est évidemment pour lui, comme d'ailleurs bien d'autres cinéastes importants, l'horreur. Il faut que quelque chose casse le scénario, et puis que le tournage aille contre le scénario, et puis que le montage aille contre le tournage, et que tout ça donne un processus dynamique qui fait que rien n'est stable. Cela dit, c'est absolument pas un cinéaste anarchiste, ni politiquement, ni esthétiquement, parce qu'il y a cet équilibre qui est à revoir ses films. À la Villette, là, il y a quelques semaines, ça m'a beaucoup frappé. Il y a à la fois ce processus constant de construction-destruction, jaillissement-dissolution, et puis tout de même une sorte de souveraineté, enfin plus que de la maîtrise, enfin une sorte de souveraineté qui fait qu'on est tout le temps au bord du chaos, mais qu'on n'est jamais dans soit le happening ou l'improvisation libre, en se disant il se passera bien quelque chose, soit une sorte d'anarchie, y compris politique d'ailleurs, qui lui sont à mon avis étrangères.
こうして4月19日、慶城大学、高麗大学などの学生を先頭とする群衆は、数千人が一団となって市内目抜き通りをデモ行進し、緊急出動した警官隊と随所で衝突、大乱闘となりました。
よ。
なんだ、一緒に見んじゃなかったの。
まあ思ってなかったんだよ。
Un film de lui qui est absolument ahurissant, magnifique, qui s'appelle Nuit et brouillard du Japon, qui raconte des querelles et en fait, des luttes politiques d'étudiants en 50 puis en 60, et des querelles intra-groupusculaires, mais on a des petits chefs dogmatiques, et puis on a de temps en temps un élément qui, lui, est celui qui va vouloir excéder les cadres du groupe, qui a souvent la sympathie d'Oshima, mais il faut tout de même qu'il y ait quelque chose, pas de canalisé, mais que ça ne se dissolve pas, même si ça s'appelle dissolution, en impuissance. La dialectique, je crois qu'il faut prononcer ce mot, puisque c'est le processus qu'il décrit là, dans le texte, construction, destruction, etc., négation de soi. Il y a réellement une dialectique entre le chaos et la rigueur, entre la construction et la destruction. Quoi. Il est toujours sur le fil, mais c'est ni la maîtrise pure, ni la dissolution. Ça m'a beaucoup frappé en voyant ces films.
Oh! して全学年の中に入ってるんだ。
C'est un film complètement en phase avec l'actualité politique de l'époque. En 1960, il y avait une renégociation du traité de sécurité nippo-américain, c'est-à-dire qu'après la guerre, les Américains ont installé leurs troupes au Japon. Et ça sous-entendait la présence de 200 000 soldats américains répartis dans 2000 bases sur le sol japonais. Et donc, en 1960, il y avait un traité de renégociation qui devait ou non prolonger la présence américaine. Et il y avait une énorme contestation à l'époque, donc qui était en avance sur les contestations qu'on a observées dans le monde à la fin des années 60, et qui a un peu catalysé la colère des étudiants de gauche contre l'occupation américaine. Et donc, ce film-là est tourné complètement en phase avec ce mouvement. Mais, comme d'habitude, Oshima ne cherche pas à servir de porte-parole. Seulement, ce film a fait un scandale à l'époque, parce qu'il a été beaucoup plus loin que ce que lui demandait le studio Shochiku. Et donc, ça a marqué la rupture avec le studio, bien qu'après, le studio a un peu distribué ses films, mais il a été un peu plus indépendant à partir de cette époque-là.
Nuit et brouillard du Japon est sorti le 9 octobre 1960. Trois jours après, la compagnie Shochiku en interrompait la diffusion. Le jour même, raconte Oshima, où un activiste d'extrême droite assassinait le président du Parti socialiste japonais. Pour Oshima, la sanction de la compagnie est insupportable.
C'est avec toute ma colère, la colère que j'éprouve devant le massacre de Nuit et brouillard du Japon, une colère que rien ne pourra apaiser, que je proteste contre ce massacre. Ce massacre est, de toute évidence, le fait d'une répression politique. Je proteste contre les dirigeants de la Shochiku. Vous, les dirigeants de la Shochiku, vous vous êtes inclinés devant les forces de répression politique et vous avez massacré Nuit et brouillard du Japon. En invoquant ces arguments, il ne fait pas beaucoup d'entrées, on ne comprend pas le film. Je proteste aussi contre une partie des journalistes chargés des spectacles. Vous avez fait du tapage en proclamant la fin de la nouvelle vague. Que désignez-vous par nouvelle vague? N'avez-vous pas jusqu'à présent utilisé l'expression nouvelle vague comme synonyme de violence et de sexe? Où y a-t-il du sexe et de la violence dans Nuit et brouillard du Japon? Vous avez collé de force à ce film l'étiquette Nouvelle Vague, notion que vos mains sales avaient déjà recouverte de boue. En noyant son caractère novateur dans le courant des mœurs, vous avez renforcé la réaction politique, la réaction artistique. Cessez désormais d'employer l'expression Nouvelle Vague. Pendant trop longtemps, on a donné à voir aux masses des films stupides. Nuit et brouillard du Japon doit être célébré comme le premier film japonais à avoir touché les gens qui, dans l'existence, réfléchissent avec sérieux et gravité. Je continuerai à faire de tels films. L'avenir du cinéma japonais est de notre côté.
Il a filmé des groupuscules dans Nuit et brouillard au Japon, par exemple, ou du Japon, je ne sais pas exactement comment il faut le dire, qui est un film d'abord extraordinaire sur plusieurs plans. Premièrement, il pose et il résout magistralement une question qui consiste à dire peut-on filmer l'histoire au présent, ou est-ce qu'il faut du recul, etc. C'est-à-dire le film date de 1960, il parle de luttes étudiantes qui sont contemporaines quasiment du tournage. Bon. Et ce film, loin de le faire sous forme de reportage ou de caméra légère à l'épaule, etc., qui semblerait aller dans le sens de l'improvisation, il le fait avec des plans en séquence à la Mizoguchi. C'est-à-dire que le film a des plans séquences de 8-10 minutes, et je crois que le film comporte 50 plans ou 49 plans, ce qui est extrêmement peu pour un film d'une longueur à peu près normale. Donc, film au présent, mais loin d'avoir une forme qui serait celle du reportage sur le vif, une forme qui est celle des 10 minute takes de Mizoguchi. Bon, ça, c'est déjà extraordinaire. Et puis, il y a une analyse de tous les courants, enfin, ou d'une grande partie des courants, Zengakuren, obédience communiste, la fraction gauche du PC, les trotskistes, les anards, etc., qui est très impressionnant. Cela dit, lui...
Est-ce qu'il tranche?
On voit où vont ses sympathies par rapport à l'impérialisme, par rapport au racisme, par rapport à la guerre du Vietnam ou au sort que les Japonais ont fait aux Coréens. Il est évident que ces antipathies vont dans un sens très déterminé, ses sympathies aussi. Mais il ne se situe pas, disons, dans la ligne claire, disons, de la lutte de classe bourgeoisie contre prolétariat. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse plus, c'est un peu la part qui est dévolue aux réprouvés, aux marginaux, aux exclus, alors soit aux exclus ethniques, c'est-à-dire les Coréens, soit à des personnages qui sont dans la délinquance, aux criminels, etc. Tout ce qu'on appelle l'infra-prolétariat, d'une certaine façon, qui, lui, l'intéresse plus que la contradiction, je crois, bourgeoisie-prolétariat en termes strictement marxistes, ce qui l'apparente, d'ailleurs, à Fassbinder et Pasolini, c'est-à-dire des cinéastes qui, tout en ayant des sympathies pour le marxisme ou le communisme ou des relations X ou Y avec les PC respectifs de leur pays, ont déplacé le problème par rapport à la stricte contradiction de classe en s'intéressant à des déviances sexuelles, professionnelles, des groupes d'exclus, de parias, de marginaux, etc., qui sont réellement ce qui l'intéresse, plutôt que la voie royale, disons, de l'analyse marxiste.
Yoshi Umemoto, est-ce que l'on pourrait parler, par exemple, de l'un des grands films des années 60 d'Oshima, qu'on appelle en français l'enterrement du soleil? De quoi s'agit-il exactement?
C'est une histoire qui se déroule dans une partie populaire de Osaka, qui s'appelle Kamagasaki. Il n'y a que des prolétaires qui vivent là-bas. Et puis j'ai senti une sorte de ressemblance entre le néoréalisme italien et le film japonais. C'est-à-dire, il y a des gens, bien sûr, c'est des acteurs qui habitaient effectivement dans cette partie de la ville maudite. Et avec Oshima, ils ont risqué vraiment leur vie d'achever le tournage. Puis, il n'y a que des prolétaires qui ont subi toujours le problème de survie, la vie ou la mort économique, et puis mentale aussi. Et dans ces habitants de cette partie de la ville, il y a une fille, comme dans le cas de l'obsédé de plein jour, peut-être c'est l'objet sexuel aussi, mais comme dans l'obsédé de plein jour, en plein jour, elle a surmonté ce problème. Et elle est peut-être le seul survivant, la seule survivante dans ce film-là.
En plus, ça se passe donc aux portes d'Osaka, qui est le deuxième centre industriel du Japon. Oui. Et donc, en même temps, c'est une critique, évidemment, de la société industrielle et des excès qu'elle commet à l'égard des individus qui la composent.
Surtout plus que la critique, c'est une sorte de dénoncer la société japonaise actuelle des années 60. Au Japon, au début des années 60, c'est le commencement de prolifération économique. Donc il y a des sacrifices, il y a des opprimés dans habitants de cette partie de la ville. Donc c'est une sorte de ghetto que les gens normaux ou bien les citoyens honnêtes n'osent pas entrer.
De plus, on y pratique tous les faux possibles, des faux certificats de naissance, on y trafique le sang également. Enfin, on a l'impression que c'est vraiment la société dans toute son horreur. Enfin, tous les excès les plus noirs qu'on puisse imaginer.
Exactement. Ce qui est important pour tourner ce film pour Hiroshima, c'est vivre dans cette partie de la ville. C'est parce que pour sentir l'odeur de cette ville, pour une sorte de convivialité avec les habitants de cette ville, c'est vraiment important chez Hiroshima. Parce que dans la plupart des cas, les films d'Hiroshima ont été vus en tant qu'esthétique un peu japonaise, mais en réalité, Hiroshima toujours croit en réalisme. C'est pour ça qu'Hiroshima choisit telle ou telle partie de la ville ou tel village pour bien montrer la situation japonaise actuelle. Pour voir un film d'Hiroshima, il faut toujours comprendre son rapport, sa position vis-à-vis de la société.
Est-ce que pour autant, dans son cinéma, voit-on apparaître une forme de société idéale à un moment, quelque chose qui pourrait y ressembler, ou c'est toujours un constat d'échec en quelque sorte?
Il y a des ébauches dans Une petite fille pour l'été, dans un moment de la pendaison, même si c'est sous forme parlée. Mais il y a quelque chose dont je pense que, très curieusement... Il y a quelque chose qui le rapproche de Pasolini, c'est à la fois une nostalgie d'une certaine période antérieure, une sorte d'archaïsme avec une vie communautaire, une sexualité dont il parle assez longuement dans son livre, qui serait l'ère Edo, les artisans, les commerçants, une sorte de culture populaire, carnavalesque un peu, avant l'ère Meiji. Et puis quelque chose qui porte vers l'avenir, qui serait une sorte de communisme non dogmatique. Et chez Pasolini, il y a le même mouvement, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui le porte vers une utopie communiste, et puis qui bizarrement recoupe une sorte d'archaïsme. Je crois que c'est la bourgeoisie qui leur fait horreur. C'est-à-dire qu'ils préfèrent quelque chose qu'à la limite l'aristocratie et le prolétariat ou le sous-prolétariat, oui, mais ce qui leur fait horreur, c'est la petite bourgeoisie.
On le voit par exemple dans ce film qui a été présenté donc le soir de l'ouverture de la rétrospective d'Hiroshima, qu'on a traduit par violence en plein jour. On dit aussi l'obsédé en plein jour. Enfin, il y a différentes versions de ce même titre, qui est effectivement une histoire extrêmement difficile à soutenir, même pour le spectateur moyen.
C'est vrai, d'ailleurs, plupart des films d'Oshima ressemblent beaucoup à ce film L'Obsédé de plein jour. Le protagoniste, c'est l'obsédé, en plein jour toujours. Et il était oppressé dans la société japonaise après la guerre. Et puis, dès qu'il rencontre la démocratie nouvelle dans le système politique japonais, il a eu mal à s'adapter. Et à partir du moment où il a compris, il est inconscient de cette inadaptation, il commence à s'agiter violemment. C'est pour ça que dans la société japonaise, cet homme est une sorte d'extraterrestre. Et tous les gens autour ne le comprennent rien de lui. Et donc cet homme obsédé, pourquoi on l'appelle obsédé? Parce qu'il est hors la loi, hors les normes de la société japonaise. Et puis les autres, par exemple, une institutrice qui était une ex-femme de cet obsédé, et qui s'incarne vraiment la démocratie de l'après-guerre à la manière américaine. Elle croit en amour, elle croit à la démocratie. Donc cette femme est l'antipode de l'obsédé. Et puis il y a d'autres gens bien sûr dans ce film qui sont par exemple une fille dont le corps est excitant. C'est un but. C'est une sorte de l'incarnation du sexe féminin. Et puis tous les hommes, même s'ils ne sont pas obsédés, veulent avoir ce corps féminin. Donc, disons que pour avoir ce corps féminin, il n'y a pas de différence entre l'obsédé et les gens normaux, ou les hommes normaux dans le film d'Oshima. Donc c'est un film assez complexe comme structure.
Oui, mais d'autant plus que l'intrigue est un petit peu étrange. En fait, disons, la façon dont Oshima commence cette histoire, c'est d'abord de façon même extrêmement inquiétante, parce que on voit arriver ce personnage, enfin, on le voit à travers une sorte de vitre qui est simplement translucide, donc on voit une ombre se projeter, et puis il y a création d'une atmosphère qui est proprement angoissante. Et puis, peu à peu arrive ce personnage, donc qui se trouve être un homme et qui va vers une femme. Et on sent que, évidemment, il est animé par des pensées qui sont elles-mêmes un petit peu inquiétantes. Enfin, on sent venir un acte sexuel qui, en fait, ne vient pas vraiment. Enfin, le tout début du film est tout à fait étonnant parce qu'on est projeté de but en blanc, alors que c'est vraiment simplement les quelques premières images dans cette atmosphère très angoissante.
Probablement, Oshima décrit la ville ou le village des années 60. Donc, dans la société japonaise, il y a toujours cette sorte d'obscurité, non-transparence vis-à-vis des gens. Et ça s'est décrit minutieusement, comme vous l'avez indiqué, la fenêtre, et puis... le climat, c'est clair aussi, mais ce n'est pas du tout transparent. Dans l'atmosphère claire et éclairée, et Oshima raconte toujours une histoire obscure.
もっといい気持ちにしてやっぺと思ってるのに。そうやっから痛いんだってね。じっとしてればいいのに。
Je voudrais revenir un instant sur l'obsédé en plein jour, parce que vous avez souligné à un moment qu'il y avait aussi une description de la situation japonaise d'après la guerre, enfin de la situation politique. En même temps, il y a un élément qui me paraît très intéressant dans ce film, c'est que, bon, effectivement, le protagoniste, c'est ce personnage donc qui est obsédé par l'idée du corps de cette jeune fille qu'il veut absolument retrouver. Enfin, donc, ça, c'est vraiment un peu le leitmotiv de tout le film. Mais en même temps, il y a aussi un rapport de classe qui est analysé, parce que lui-même apparaît comme un personnage, enfin on dirait un prolétaire en fait, compte tenu de la terminologie de l'époque, et en même temps il est extrêmement jaloux, ou il a un désir de revanche très puissant à l'encontre d'un autre personnage qui lui est plutôt le chef, et qui en fait est celui qui est choisi aussi, ou qui a les faveurs de cette fameuse jeune fille. Donc effectivement, il est obsédé par cette jeune fille, mais en même temps on sent qu'il veut prendre possession d'elle aussi, peut-être pour rivaliser avec celui qui a eu ses faveurs.
Exactement. Dans toujours le cas d'Oshima, Oshima décrit minutieusement le système de la société japonaise. Pour le film d'Obsédé en plein jour, c'est un village. Donc c'est un microcosme de Japon, c'est-à-dire il y a toutes sortes de... Tous les éléments qui consistent la société japonaise existent. Par exemple, il y a le professeur, ex-femme de cet obsédé, et puis une jeune fille objet de désir sexuel, et puis il y a un clan des jeunes qui butent pour avoir la vraie démocratie dans ce village traditionnel. Donc, cette société du village est vraiment une sorte de microcosme de la société japonaise que Oshima décrit toujours dans ses films.
Il y a aussi un autre élément qui est un petit peu étrange, c'est que ce même personnage, qui est donc comme une sorte de chef naturel, qui de plus va être élu par l'ensemble de la population de ce village pour être vraiment le représentant, élu de manière historique, dit-on dans le film, puisqu'il rassemble un nombre de votes considérable. Finalement, au moment précis où il est élu, il se suicide. C'est quand même extrêmement déconcertant.
Ça aussi, dans toujours le cas d'Oshima, le désir politique et le désir sexuel se mêlent à la fin. Par exemple, dans le film des chansons paillardes japonaises, ça aussi, dont les protagonistes sont des jeunes lycéens, trois lycéens, ils chantent toujours cette chanson paillarde, obsédée, etc. Mais ils n'arrivent pas à capter une fille, draguer une fille dans la ville de Tokyo, mais son désir sexuel envahit leur existence même. Donc il y a toujours un mélange de politique et le désir sexuel chez Oshima.
Aïe, kitsa.
お前震えてるじゃないか。どうした？
だって本当に震えが来ちゃったんだよ。
それでは。
On pourrait presque dire, même si c'est peut-être un peu parjure, mais enfin, que d'une certaine manière, il fait dériver la notion de plus-value, donc qui intervient dans les rapports entre les différentes classes sociales, donc prolétariat et patronat, mais que là cette fois, ça n'est plus cette notion-là, mais que c'est justement la notion de sexualité qui devient centrale, et que c'est celle-là qui devient vraiment la force motrice et l'élément qui permet d'analyser les rapports entre les classes aussi.
À en croire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, ces films et ces écrits. Bon, il y a quelque chose sur la puissance subversive du désir, de la sexualité, qui est absolument patente. Mais avec aussi une critique dans un texte qui est dans le livre et très souvent des allusions dans ses films, à ce qu'il a appelé une sorte de productivisme sexuel qui devenait un autre dogmatisme, disons, dans les environs et dans la foulée de 68, c'est-à-dire le côté « tu jouiras comme un 11e commandement », quelque chose qui lui apparaît aussi dogmatique que des mots d'ordre corpusculaires. Et ça, même sa conception du désir et du sexe n'est pas normative. Ça, c'est très intéressant là-dessus. C'est plus compliqué, plus riche que le mot d'ordre dont il décrit très bien dans nos articles du livre, qu'après bon, la période de refoulement, tu ne parleras pas du sexe parce que c'est sale, c'est pas bien. Tu devras le pratiquer à outrance, tu devras en parler. Et la même chose à l'envers. Et que donc, là encore, il déplace aussi la contradiction sur le plan sexuel, comme il le faisait sur le plan politique. C'est pas simplement un refoulement contre sexualité, c'est un troisième terme qui l'intéresse. Ça, c'est très intéressant. Il déplace toujours les couples bien homologués.
Oui, il arrive même d'ailleurs dans ce plaidoyer qu'il va soutenir au moment du procès qu'on lui fait au Japon, donc en 76, à propos de l'Empire des Sens, puisque donc il y a saisie, perquisition, procès, et lui-même est appelé à se défendre. Alors donc dans ce plaidoyer, il dit à un moment, par exemple, je me souviens, rendant les mœurs sexuelles fluctuantes.
Absolument,
oui. Et le sexe ne peut pas être un simple médiateur.
Ah non, non, mais ça c'est saisissant. Quand on voit ces films et à relire ces textes, à quel point toute position stable, tout contraste fixé une fois pour toutes lui fait horreur. C'est clair.
Nagisha Oshima.
足で終わるということに主要な意味があるんではなくて、要するに他の全てのことを忘れてあそこまで性にのめり込めるということ。
L'Empire des Sens, j'ai voulu décrire jusqu'à l'extrémité de la sexualité. La mort, c'est que les deux personnages principaux pouvaient se concentrer aussi profondément dans leur monde érotique.
Elle a vécu cette époque, par exemple, dans les gens de la population, dans les histoires de sexualité, par exemple, un seul chevalier qui a fait son épouse,
Sada, la femme réelle, elle a vécu sa vie sexuelle en amour jusqu'au bout et j'admire beaucoup cette personne. Ce que je trouve beau dans l'histoire de Sada, c'est que tout au début, ils étaient certainement des libertins. Et au fur et à mesure, ils deviennent de plus en plus sanctifiés pour arriver les saints de l'amour. Ce que j'ai voulu montrer dans ce film à propos de la sexualité, ça remonte en fait pour la tradition peut-être jusqu'au 4e ou 5e siècle. À mon avis, le peuple japonais était toujours affirmatif sur le sexe.
Christine Bussy-Glucksmann.
Je crois que c'est un film qui n'est pas pornographique, mais qui est érotique, c'est-à-dire au sens de bataille. L'érotisme, en tant que c'est une sorte d'approbation de la vie jusque dans la mort, et donc que dans l'érotisme, on assiste au fond à une dissolution de toutes les formes constituées, Et cette violence, donc, d'un film qui transgresse, je dirais, tous les interdits, et de manière extrêmement précise. Ce qui me frappe encore, quand on le voit aujourd'hui, c'est à quel point on utilise le plan rapproché sur le sexe, sur les rapports sexuels, sur les différentes figures sexuelles, et ce, jusqu'à la mort. Et donc, c'est-à-dire sur un thème au fond de la culture japonaise, le suicide des amants, sauf que la violence est au fond portée par la femme, et je crois que ça c'est extrêmement important aussi dans l'histoire de ce film, et que cette violence est portée par la femme jusqu'à la castration. La violence du film est liée à des procédures visuelles qui sont tantôt empruntées au kabuki, avec une grande théâtralisation des scènes, et je dirais que la théâtralisation entraîne un surcroît de visibilité sur ce qui est en premier plan. Et il me semble également qu'il faudrait revenir à tout un genre japonais dont s'est inspiré le film, qui est le shunga, hein, c'est-à-dire toute la tradition de la peinture, des estampes érotiques, de la culture urbaine, ce qu'on appelle le monde flottant, où précisément on trouve, ça m'a beaucoup frappé en consultant, en somme, ces scènes érotiques en série, puisque c'était des livres, à quel point le découpage visuel des figures dans Oshima est apparenté à Oshunga. Et ça, c'est pas du tout une tradition occidentale.
J'ai pas d'idée.
ごめん。
もっと強く。もっと。もっと強く。もっと強く。もっと。もっと強く。もっと。もっと強く。
Pas pornographique, même si les frontières sont toujours indécidables. Je crois que ce qui différencie le pornographique de l'érotisme, c'est que dans l'érotisme, il y a à la fois une problématique, je dirais, de la transgression, au fond, et du désir et de la mort, et de l'autre et de soi. Mais il y a également, et je crois que c'est ça le plus important, une transgression des formes. Et cette transgression des formes oblige à inventer une théâtralité, je pense à Sade, hein, les combinatoires, les postures, les figures, une théâtralité qui montre son propre objet et qui le montre à un regard. Et c'est ça l'érotisme. Et là, on voit en permanence le regard d'une troisième personne sur les amants, qui est aussi le regard de la société ou le regard du spectateur imaginaire.
Et la société qui, effectivement, condamne en permanence ses amants. Parce que c'est comme ça qu'ils apparaissent tout au long du film.
Ils sont condamnés et ils sont voués, je dirais, à un isolement progressif, à un enfermement. Au fond, c'est aussi l'histoire d'un enfermement par l'érotisme, par ce type d'amour que j'appellerais une passion, hein, et qui est différent de l'amour. Et je crois que là, je pense, il y a un très beau texte de Foucault repris par Deleuze, où il dit que ce qui caractérise la passion, c'est que elle vise la mort de l'autre. Et de soi-même. Autrement dit, c'est un espace qui est un espace de destruction, alors que l'amour implique la reconnaissance de l'altérité de l'autre. Et je crois que ce texte de Foucault et tous les commentaires que fait Deleuze à ce texte est tout à fait emblématique, que si le refus est peut-être moins en Occident, c'est qu'au fond on a toute une tradition de l'amour-passion. Hein ? On pourrait remonter à Tristan et Iseut. Hein et donc, non seulement une tradition, mais un ensemble de livres, une culture, je dirais, une culture littéraire. Alors, elle existe également au Japon, mais peut-être qu'il n'y a pas eu connexion entre toute une culture plastique, visuelle, romanesque et le film.
Kitsan.
Max Tessier.
Un des tabous qui n'a pas encore vraiment abordé, sinon peut-être dans Furio, c'est par exemple l'homosexualité, qui est rarement abordée dans le cinéma japonais. Il y a eu quelques films, d'ailleurs assez mineurs, documentaires ou autres, qui ont abordé ce sujet récemment, donc beaucoup plus tard qu'en Europe. Et son projet actuel, qu'il n'a pas pu réaliser parce qu'il a eu une attaque cérébrale il y a 2 ans et qu'il est incapable de tourner physiquement, ça, c'est un film qui devrait s'appeler Gorato, c'est-à-dire une sorte de prohibition, comme ça, qui se passe à l'ère des samouraïs, ce qui est très rare chez lui. Il a fait 1 ou 2 films d'époque, c'est tout, et qui relaterait d'une certaine façon, qui aborderait les relations entre les samouraïs sous un point de vue homosexuel. Ce qui a dû exister, probablement, parce que les samouraïs étaient des militaires, quand même, et coupés souvent du monde des femmes qui n'étaient pas mariées. Donc on peut supposer, mais c'est vraiment un sujet tabou, qu'il y a eu des relations homosexuelles. Alors, voilà son dernier projet. Malheureusement, je ne sais pas s'il pourra le réaliser. Ce serait très intéressant. Et vous savez qu'un de ses autres projets non aboutis, qui était presque réalisé, bon, qu'il a dû abandonner au dernier moment pour des raisons financières, c'était justement la rencontre entre Sesue Hayakawa, vous savez, le grand acteur japonais du muet qui a joué chez Cecil 2000, etc., et jusqu'au pont de la rivière Kwai, et Rudolph Valentino. Ça s'appelait Sesue and Rudy, et il devait le tourner aux États-Unis, au Canada, dans les années 80, après Furio, et bon, le projet n'a jamais pris corps, et je pense que ça aurait pu être intéressant. Bon, même s'il y a une sorte de côté mode ou snobisme autour de ça, je pense que traité par Oshima, ça aurait été vraiment intéressant. Donc, voilà un des tabous qui n'a pas encore vraiment abordé, sauf dans Furio. Parce que tout de même, le pont de la rivière Kwa revu sous un angle homosexuel, c'était nouveau.
Shinpancho, tasho jinmon shitai to omaimasu ga. To be or not to be, that is a question major serious. The prosecutor said that you landed in Java by parachute. Under whose orders?
Under the orders of the Supreme Commander of His Majesty's forces in India.
Were you not under the commander in Java?
You know I came to Java in August. You know that the commander in Java was captured in March. You know, Captain.
Captain Yonoi. 審判長. この男が現在もなお抵抗しているインドの総司令官の命令に従って戦っていたとすれば、正規の交戦行為として不慮に釣りがいないと思いますが。
その証拠は何もない。
私はこの男の言うことが信じられるが。Why you asked when captured? Why you asked how you intended to conduct a guerrilla war with only five men?
Well, I suspect they thought we were an advance party for a new campaign. Presumably the invasion of Java.They wanted to know dates and places.
What did you say?
I said I thought they were crackers.
What?
I said I thought they were mad.
And then?
Then? Then they stopped feeding me and started beating me, I'm sorry to say.
Can you prove that you were beaten? On your shirt. No more questions.
Il s'est attaqué indirectement aussi à la personne même et à l'idée de l'empereur, ce qui est très dangereux au Japon, parce que ça, c'est vraiment le dernier tabou qui n'est pas tombé. On n'a pas le droit. La censure est devenue quand même plus libérale, même pour le sexe. Mais si on s'attaque à l'image de l'empereur ou à la famille impériale, là, on tombe sous le coup de la loi et ça peut être très, très grave. Donc voilà, Oshima était quand même celui qui a fait tomber la plupart des tabous de la société japonaise, et avec un langage neuf, par exemple n'hésitant pas à répéter des séquences avec quelques modifications, s'amuser, comme dans Le Retour des Trois Soulards en 68, où on a l'impression que la même bobine revient au bout de trois quarts d'heure, alors que c'est absolument pas ça. Il a joué beaucoup avec les codes du langage cinématographique avant d'aborder un néoclassicisme, mais ça, je crois que c'est lié au succès de l'Empire des Sens, au succès international, et à partir du moment où il s'est engagé dans le système des coproductions, il a peut-être perdu un petit peu de sa personnalité et son âme pour une sorte de néoclassicisme qui aboutit à Max Mon Amour, qui, pour moi, n'est pas son film le plus satisfaisant, bien qu'il ait, bien sûr, que Jean-Claude Carrière a aussi repris les thèmes, bon, La Belle et la Bête, etc., les liaisons sexuelles avec un singe, mais je crois que le film est relativement décevant par rapport à ce qu'il aurait pu en faire 10 ans plus tôt, par exemple.
Dis-moi franchement une chose. C'est vraiment ton amant, ces singes?
Oui.
But it's unthinkable. Margaret, what's happened to you? Have you gone completely insane?
Pardon, Peter. Allons nous coucher.
S'il vous plaît, monsieur. I just found out that you're the mistress of a monkey and you say to me, let's go to bed. But I want to understand, Margaret. Will you put yourself in my position for a moment? I want to know everything, right from the very beginning.
Quoi, par exemple?
Your sex life, for instance. What do you do with him?
Je ne t'ai jamais questionné sur ta vie sexuelle avec Camille.
That's not at all the same thing.
Bien sûr que si.
Pourquoi tu as choisi un singe?
Lui aussi m'a choisi.
Jean-Claude Carrière.
En fait, c'était une histoire dont le point de départ me plaisait, et il plaisait beaucoup au schéma aussi, mais un point de départ ne suffit pas. Encore faut-il que ce point de départ ait des possibilités de développement. Et les possibilités de développement nous paraissaient exister dans le comportement du mari, dans l'évolution de cette situation à trois et dans la
qui au départ est absolument épouvantée.
Paraît bloquée, paraît retourjetée et qui finalement trouve quelque chose de très très positif dans ce ménage à trois, entre guillemets. Ouais.
Oui, parce que ce qui est assez intéressant, enfin, dans l'évolution du film, enfin, de l'histoire elle-même, du scénario, c'est que le personnage du chimpanzé donc manifeste visiblement un réel amour pour cette femme.
Pour cette femme, bien sûr. Oui, et vice versa. C'est-à-dire, je crois que ce n'aurait pas été possible autrement. Et c'est vraiment une des questions de base. C'est n'éprouve-t-on de la jalousie que pour son semblable? Très souvent, dans les couples, on voit que l'un des deux, le mari ou la femme, caresse un chat ou un chien, a beaucoup d'affection pour un animal domestique. Si on pousse un peu plus loin cette affection jusqu'à l'amour sexuel, est-ce que la jalousie peut apparaître à l'égard de quelqu'un qui, de toute évidence, n'appartient pas à l'espèce humaine? C'était une question de comédie, entre guillemets, intéressante, amusante à répondre. Ce qui nous intéressait, c'était de faire quelque chose qui serait comme une pièce classique, pratiquement
avec
un huis clos, une unité, presque une unité de lieu, et une lente évolution des rapports entre ces personnages, qu'a très très bien souligné, je trouve, la musique de Portal. Je crois qu'il a tout à fait bien trouvé ce qui convenait. Il me semble qu'elle illustre ces quelques poussées soudaines d'irrationnel que nous pouvons tous éprouver, et que la civilisation, à tort ou à raison, nous apprend à réprimer, à ne pas manifester. Alors, il se trouve que tout d'un coup, une femme décide de ne plus réprimer ces instincts-là, d'aller voir de l'autre côté de la fameuse barrière, et d'y aller voir totalement.
Max, viens t'asseoir.
Bonsoir, Max.
Bonsoir, Max.
Bonsoir, Max. Ne joue pas, Max, ne joue pas.
Le pauvre, toujours enfermé dans sa chambre.
Mais quel âge a-t-il?
On ne sait pas. C'est un adulte.
On dit que les chimpanzés sont très très proches des hommes. Nos cousins, pour ainsi dire.
Désolée, je ne me sens pas de la famille. Il a faim, tu crois?
Max? Max? Tu veux manger?
Fais pas ça. Arrête. Il est propre. Il fait où on lui dit de faire.
Il est très propre.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Max, non.
Il est très attaché à Margaret.
Oui, en effet. Mais il est toujours comme ça. Max. Non. J'imagine que c'est un mal.
Arrête. Arrête. Max, arrête. Maintenant, ça suffit.
Margaret, I think you better take him back to his room, otherwise he might spoil our evening.
C'est possible que justement l'envie de beaucoup de femmes, c'est de faire des choses qui sont pas nécessairement en règle. C'est-à-dire on ne veut pas toujours conformer à la société et conformer à les lois. Et je pense que ce film montre une imagination très grande de ce personnage qui veut, pour des raisons qu'on ne sait pas et on n'a pas besoin de les savoir, faire introduire dans sa vie un chimpanzé que son mari, après le premier choc de ce rencontre, l'invite à venir chez eux. Pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui veut vivre avec un chimpanzé. Donc il y avait un côté insolite, il y avait un côté provocateur, il y avait un côté dérangeant, et en même temps il y avait un côté très humoristique, très tendre, très bouleversant dans les rapports justement différents.
Comment cela s'est-il passé? Comment Oshima vous a-t-il présenté le film?
En me donnant le scénario, et il m'a demandé si je l'aimais ou si je l'aimais pas. Je lui ai dit que je l'aimais beaucoup, je voulais savoir un petit peu la façon dont il allait le tourner. Il a dit que ça va être un film très classique. Il ne voulait pas expliquer du tout des messages ou de quoi que ce soit du scénario. Il dit, pour moi, tout est dans le scénario et dans l'histoire. C'est à vous d'imaginer et de vous montrer votre imagination. Moi, je vous mets en scène. Ne me demandez pas trop de questions parce que je ne peux pas vous les répondre.
Jean Arboni, par rapport à l'investigation du créateur lui-même, donc par rapport au film d'Oshima, est-ce que l'on pourrait aussi établir la façon dont il traite ou dont il fait venir certains éléments de l'imaginaire japonais? Enfin, je pense à certaines scènes où l'on voit des fantômes, par exemple, comme dans L'Empire de la Passion, ou bien dans la Pendaison, ce superbe film où à de certains moments, on ne sait jamais très bien si on est effectivement dans la réalité de la scène de la prison, avec ce condamné qu'on essaie de ramener à l'aveu de son crime, et de temps en temps, des incursions sur des îles où des personnages sont en train de s'aimer. Enfin, c'est absolument extraordinaire.
Oui, il y a souvent des passages comme ça, d'un plan réaliste à l'onirisme, on peut dire, chez lui. Mais ce qui m'impressionne beaucoup, dans la cérémonie, dans la nuit au brouillard du Japon, dans la pendaison, c'est quand ça se fait pratiquement par des changements de tableau, mais dans une sorte d'espace commun. En fait, on commence par une scène qui est très stylisée, mais qui, disons, la première noce dans le mémoire du Japon, donc les gens sont rassemblés, alors il y a quelque chose qui est un peu de la composition de groupe avec l'ordonnancement, ça, des invités, etc. Et puis tout à coup, il y a une sorte de revenant qui arrive, mais qui est un vrai revenant, il n'est pas mort, il revient de loin, mais c'est un vivant. Et puis tout à coup, dans le cas des mouvements de caméra, le fond devient noir, on passe à la stylisation théâtrale insensiblement, souvent dans le même plan. Et puis ensuite, on est avec des revenants, alors là, qui sont des gens qui sont morts. Et je trouve qu'il a une virtuosité pour les changements de tableau. C'est-à-dire à la fois le passage d'un plan réaliste, si on peut appeler ça comme ça, à une représentation purement théâtrale, qui prend souvent des allures de psychanalyse, donc dans la pendaison, et puis tout à coup à quelque chose de complètement imaginaire, avec des gens qui sont morts, des vrais fantômes, etc., qui est là aussi un des plans importants de sa scénographie. Oui, c'est une scénographie. Des changements de tableau, avec en même temps des changements d'univers. Des vivants, qui sont souvent considérés comme des morts par d'autres vivants dans le même plan, qui ensuite sont hantés par des fantômes qui sont eux-mêmes vivants, et puis qui ensuite sont hantés par des fantômes qui sont cette fois bien morts. Et tout ça, parfois, dans la même unité scénographique, avec simplement des changements d'éclairage, un changement dans la gestuelle, des choses comme ça.
C'est-à-dire que c'est encore bien plus que l'épanchement du rêve dans la vie réelle, que c'est vraiment le passage d'une vie à l'autre.
Voilà, mais là aussi, il y a un troisième terme, parce que c'est pas en termes d'opposition binaire, tout simplement. Il n'y a pas simplement rêve-réalité, il y a des zones frontières qui...
Des zones intermédiaires,
voilà,
comme ça.
Voilà, voilà.
Ciné-club, Dissolution et jaillissement, Nagisa Oshima, par Pascal Lismonde. Avec Christine Bussig-Luxman, philosophe, Jean-Claude Carrière, scénariste de Max Mon Amour, et les critiques Vincent Ostria, Max Tessier, Yoshi Umemoto et Jean Narboni, qui a dirigé la publication des écrits d'Oshima dans la collection des cahiers du cinéma de Gallimard. Texte lu par Simon Duprez, Archivina Catherine Louis, groupe de réalisation Michel Kreis, Manuel Couturier et Claude Giovannetti.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 février 1998 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.